Alors, bon retour sur les ondes de Nord-Ouest FM, votre radio communautaire de langue française de la grande région de Rivière-la-Paix. Vous êtes à l'émission en direct du Nord-Ouest en ce 22 septembre 2021. Il est 10h26, 28 secondes. Et tel que promis aujourd'hui, on fait le point sur la COVID-19 qui est devenue notre rendez-vous là, des mercredis matins avec Hélène Lequitte, notre journaliste de l'initiative de journalisme local. Alors, bonjour Hélène.
Bonjour Gisèle. Et oui, en ce premier jour d'automne, ça bouge pas mal en Alberta. L'état d'urgence est déclaré dans la province et hier, le ministre de la Santé, Tyler Chambreau, a démissionné pour apparemment raison de remaniement ministériel, c'est du moins ce qu'on dit. Et on peut dire que, bah oui, tout va comme sur des roulettes, hein, c'est moins qu'on puisse dire. Et d'ailleurs, je voulais te demander, qu'est-ce que tu as pensé, toi, de cette démission de la part du ministre de la Santé? Tu étais surprise ou
non? Je suis pas surprise. Je pense que les médecins demandaient sa démission depuis un petit bout de temps, depuis le printemps. Moi, je suis surprise que Mme Inshaw demeure en poste. Et puis, c'est pas un très gros, avons-le, un très gros remaniement ministériel auquel on a assisté. C'est Chandreau qui change de place avec un autre ministre, avec Copper qui va le remplacer, puis Tyler Chandreau qui prend la barre là, de comme ministre, le ministère du Travail et de l'Immigration. Alors,
oui, alors c'est ça, prendre la barre, c'est le mot, parce que justement, comme on ne sait pas vraiment où on va, on voit toujours le groupe de médecins Protect Our Province Alberta qui fait un suivi régulier sur l'ensemble de la situation, en faisant des points justement sur une chaîne YouTube. Et d'ailleurs, comme l'actualité était chargée hier, ils ont décidé de reporter à aujourd'hui 16h, pour ceux que ça intéresse, le point spécial Retour à l'école, Back to School. Ça va être intéressant de suivre justement ce qu'ils disent à ce sujet. Et d'ailleurs, parce que c'est pas toujours évident aussi de trouver des médecins qui puissent témoigner de la situation, et surtout particulièrement en région. Et d'ailleurs, j'en profite, Gisèle, pour faire un appel. Un cri du cœur, je suis toujours à la recherche de la perle rare qui souhaiterait justement discuter avec nous sur les ondes de Nord-Ouest FM à ce sujet. Je lance l'invitation, donc pour ceux qui seraient ouverts à parler, médecins, infirmières, qui quittent la province, vous pouvez nous appeler au 403-890-6456, je serai impatiente de vous parler. En attendant, on va regarder du côté du bilan, un petit bilan en chiffres. Ce matin, on peut dire que les hospitalisations augmentent toujours, malheureusement. On est rendu à 20 917 cas actifs, contre plus de 18 000 mercredi dernier lors de notre dernière converse. L'Alberta enregistre en l'espace d'une journée 1519 cas. Les soins intensifs, sans grande surprise, sont débordés. On le sait, l'Alberta n'a pas assez de personnel soignant pour faire face à cette situation, au point de demander d'une part l'aide du gouvernement fédéral, mais aussi j'ai appris que les services de santé en Alberta ont lancé un appel de détresse auprès des infirmières à la retraite afin de venir en renfort. D'ailleurs, entre-temps, j'ai pu parler à Gosia Gasperovic, qui est une spécialiste biologiste chercheuse qui travaille à l'Université de Calgary, parce que moi, ce que j'ai essayé de savoir, Gisèle, c'est d'avoir un petit peu de perspective pour être au-dessus de cette mêlée de la COVID-19. Elle est très active sur les médias sociaux, et la raison pour laquelle j'ai voulu lui parler, c'est qu'elle avait fait un graphique elle-même, une projection, qu'elle a partagée justement sur Twitter, qui s'appelle Projection for Alberta #Firebreak, qui montre comment on pourrait sortir de cette impasse. Voilà, j'ai cherché à en savoir plus. Est-ce que le manque de vaccinés, c'est l'unique problème? Elle va nous répondre à toutes ces questions et on va l'écouter maintenant.
No, that's not the main cause. The main cause is the bad policy. So it was undercalculated or miscalculated. The rate of the spread was miscalculated. And we knew that it was predictable that we will be in such a disaster. It was predictable already in summer. So, I mean, we need social distancing and vaccine and other public health measures like masking, ventilation, air filtration, closing schools at least now, making a shutdown, but just for several weeks until we stop the community transmission. Once we stop community transmission, which is achievable in several weeks, then we can reopen, and then we can have everything, economy back, social life back, everything like this. So the new projections is what we can still do in the future, like now. If we use all the tools we have, in several weeks, we can stop the community transmission. And once the community transmission is stopped, we can have the normalcy back and we can resume economic activities. And looking in the past, all the jurisdictions that followed this so that stopped community transmission had much better outcome in terms of economy, in terms of social private liberties, like individual liberties, mm-hmm. freedom, mm-hmm. and in health and life, right? Like they had much less deaths, much less hospitalizations, and the economy is better, and people, and overall they had less lockdowns, like less strict measures. Mm-hmm. So when you look at New Zealand and social stringency, like COVID stringency index, they had strong lockdown at the beginning, so more stringent restrictions than Canada had. But when you compare it to Canada, then it drops, then New Zealand drops down, and the restrictions were much, much milder than in Canada all over the time. So they just had, for a moment when they have full lockdown, the restrictions are stronger, but between those lockdowns, there are months and months of much milder restrictions than we have in Canada.
Alors, c'était Madame Gosia...
Gosia Kasperovic, hein, la spécialiste biologie chercheuse à l'Université de Calgary. Donc, c'est intéressant son point de vue.
Oui. C'est pas un point de vue c'est intéressant, c'est pas vraiment un point de vue qu'on n'a pas entendu, là. Le fait que d'empêcher la propagation du virus à l'intérieur des communautés, moi, le problème que je vois, c'est qu'il y a des gens qui suivront pas ces protocoles-là, notamment en région où le taux de vaccination est plus le taux de vaccination est plus bas aussi, là, où les gens ont tendance à moins suivre les restrictions mises en place par le gouvernement, là.
Alors justement, c'est là que la fameuse politique intervient. C'est vrai qu'elle a donné des exemples, hein, la Nouvelle-Zélande, l'Australie, à un moment donné, ça a été assez fort, les restrictions qui ont été mises en place, avec des mesures derrière si elles n'étaient pas suivies. C'est vrai que la question, au-delà de la vaccination, c'est la politique, hein, qu'elle soit municipale, provinciale, régionale. C'est quelque chose qui n'est pas vraiment abordé, mais si elle était solidement établie, c'est vrai que ce qu'elle explique, c'est vraiment un équilibre, hein, entre la vaccination et cette politique-là. C'est vrai que c'est aux leaders politiques de faire preuve, on va dire, peut-être de fermeté. Peut-être qu'on n'ose pas aborder cette question-là, parce que justement, d'où la question des libertés individuelles. Après, elle a aussi parlé des maritimes, où justement, ils n'ont pas hésité à un moment donné, les maritimes, à fermer un peu leurs frontières.
Ah non, ils ont fermé leurs frontières complètement. Voilà, les gens pouvaient plus voyager pour se rendre dans les maritimes, notamment au Nouveau-Brunswick.
Tout à fait.
Oui. Les gens ne peuvent plus aller en vacances. Il y a quand même beaucoup de gens qui vont en vacances dans les maritimes. Et puis, le trafic était complètement arrêté. Il fallait avoir là des preuves qu'on se déplaçait pour déménager ou des trucs comme ça. Là, on ne peut plus visiter librement là comme touriste. Ils avaient vraiment fermé leurs frontières, là, puis ça fait une espèce de bulle dans les maritimes pour un peu empêcher la propagation, là. Je pense que, comme le mentionnait cette biologiste-là, c'est une question aussi où la transmission se fait à travers nos écoles aussi maintenant, là.
Oui,
ça devient des foyers importants, là, de transmission, là.
C'est pour ça que le retour à l'école, le point qui va être fait à 16h par le groupe justement de praticiens Protect Our Province Alberta, je pense que ça vaut vraiment la peine de regarder ce que ces médecins-là, ces spécialistes de la santé ont à dire par rapport à ce point-là. On l'avait vu, comme tu l'as bien mentionné, Gisèle, que c'était quand même des interopropices, on va dire, les écoles justement pour la propagation, les cas d'éclosion, les choses comme ça. Après, moi, là où je reste un peu dubitative, on va dire, c'est que, effectivement, comme tu l'as aussi mentionné au début de notre conversation, c'est l'attitude de Dina Hinshaw, moi, je suis perplexe, c'est-à-dire comment se fait-il qu'une scientifique a accepté la levée des restrictions sanitaires d'un coup, au mois de juillet, sur quels appuis scientifiques s'est-elle basée? Parce que quand on écoute justement Madame
Gasserovic... Donc, on suit un petit peu les recherches et puis qu'on lit un peu sur la propagation de ce virus-là, on se demande pourquoi la province a ouvert complètement. Mais je pense que, tu sais, elle a été poussée beaucoup. Moi, j'ai l'impression. Moi, c'est l'impression que j'ai, c'est qu'elle a été poussée beaucoup par les politiques là pour ouvrir. Là.
Oui, mais comme tout médecin, voilà, il y a le serment d'Hippocrate qui est important.
Ouais.
Qu'est-ce qu'on privilégie? Est-ce que c'est la santé des gens, des patients, ou est-ce que c'est justement des directives, on peut dire, peut-être politiques, justement? Moi, je suis assez perplexe encore là-dessus.
Et, en même temps, on n'est pas là non plus pour voir là, qu'est-ce qui se passe dans les coulisses du pouvoir en Alberta non plus. Là. On ne sait pas non plus là, sous quelle pression elle a été mise, qui poussait, là, qui tirait un peu les ficelles. Je pense que peut-être qu'il devrait songer à remplacer Mme Inshaw avec quelqu'un qui est peut-être un petit peu plus solide. Je dis pas que c'est pas quelqu'un qui est pas connaissant, qui a pas les connaissances pour tenir ce poste-là, mais peut-être qu'ils ont besoin de renouveau. Puis ça reste à voir aussi comment va gérer notre nouveau ministre de la Santé, Monsieur Copper, voir comment lui va gérer la situation comparativement à Tyler Shandrow, qui supposément a remis sa démission à cause des pressions et de l'harcèlement que subissait lui et sa famille de la part de gens qui s'opposaient à l'imposition des mesures sanitaires là, pour contrer la propagation du virus dans la province.
Mais je tiens quand même à rebondir sur une chose, c'est qu'au début de l'entrevue de ce qu'on a entendu avec Mademoiselle Gasserovic, c'est qu'elle explique bien que c'était prévisible ce qu'on est en train de vivre actuellement, scientifiquement parlant, au niveau des data, au niveau des données, au niveau des calculs, on pouvait anticiper ce qu'on est en train de vivre maintenant. Donc la question que je pose en tant que scientifique, c'est comment se fait-il que le docteur Dina Inshaw n'a pas eu les mêmes calculs que cette chercheuse justement à l'Université de Calgary? D'un point de vue scientifique, moi il y a une comparaison qui est quand même... Qui pose question.
Oui, je pense que c'est ça, c'est dans les coulisses du pouvoir ou que ça s'est joué plus que dans les coulisses de la recherche scientifique, on va dire.
Donc on verra justement comment tout ça, ça va aboutir dans les prochaines semaines et dans les prochains mois, peut-être.
Non, c'est ça, c'est de voir aussi, tu sais, l'appel à l'aide là, du gouvernement provincial, l'appel à l'aide de Alberta Health pour le retour des infirmières qui ont pris, ou les infirmiers qui ont pris leur retraite vers les hôpitaux. Je sais que dans la, justement, Monsieur Vipon avait publié il y a quelques jours un truc où il disait où son épouse qui travaillait depuis plusieurs années en recherche, on appelait ces gens-là à venir travailler dans les hôpitaux, des gens qui n'avaient pas pratiqué au niveau clinique depuis des années et des années, qui étaient appelés à venir en renfort dans les hôpitaux de la province. Et puis, ça a un impact ici dans la région. Hein. L'hôpital de McLennan, en ce moment, l'hôpital Sacré-Cœur, a personne aux urgences aujourd'hui, a personne demain et a personne le 30, pendant 24 heures, là, aujourd'hui, le 22, demain, le 23 et le 30, la semaine prochaine, le 30 septembre, il y aura personne, il n'y aura pas de médecin traitant disponible aux urgences. Donc, tous les gens qui appellent le 911 vont être dirigés non pas vers Peace River comme c'est l'habitude, mais vers High Prairie. Alors, je sais pas c'est quoi la situation nécessairement à Peace River. C'est ça qui est difficile. C'est difficile. Les gens veulent pas se prononcer. Les médecins veulent pas nécessairement se prononcer. Et puis, je pense que le ton monte même chez les médecins. La clinique de Peace River, par exemple, a publié sur les réseaux sociaux que les gens qui veulent avoir des exemptions pour le passeport vaccinal devront, pour la vaccination, là, ils devront prouver qu'ils sont nécessairement allergiques au vaccin et que la seule, le seul refus moral, que ce soit au niveau religieux, que ce soit au niveau de des croyances un peu libertaires, là, à outrance, là, que ça, ça sera pas accepté comme une justification valable pour recevoir une lettre d'exemption de la part de la clinique médicale de Peace River. Les autres cliniques dans la région ne se sont pas du tout prononcées là-dessus. C'est ça. C'est ça serait quand même peut-être le fun de pouvoir parler à un des médecins de cette clinique-là.
Oui, c'est
mais ils sont, c'est des gens qui sont, ben, qui sont débordés de travail, hein.
Oui, mais c'est surtout, moi, j'aurais une question, justement, c'est sur les maladies auto-immunes. Je pense que c'est un cas de figure particulier. Il y a des gens qui ont des maladies de ce type. Donc c'est de voir aussi qu'est-ce que les médecins disent.
Mais dans le communiqué qu'ils avaient publié, ça disait que justement s'ils avaient des problèmes auto-immunes, s'ils avaient d'autres problèmes comme des arthrites sévères, qui est une maladie auto-immune, des trucs comme ça, parce que moi j'en ai eu une maladie auto-immune. Puis moi j'ai manqué mourir là quand j'ai eu ce virus là. Tu sais, c'est ça, c'est que les chances de réaction sont pires face au virus. Les chances d'être malade, sévèrement malade, ils sont pires. La documentation scientifique semble tendre vers ça. Et puis, il y a moins de chances d'être mal réagir au vaccin que de mal réagir, surtout à la variante Delta là, qui fait des ravages. C'est ça qui provoque là, le nombre de malades de la COVID, le nombre de malades dans les lits réguliers puis dans les lits de soins intensifs là, partout en province là.
C'est pour ça que comme elle l'avait avancé justement la spécialiste de Calgary, c'est vrai que l'aspect politique la politique qui devrait être mise en place, c'est intéressant si justement on doit faire preuve de flexibilité, de souplesse par rapport à l'évolution du virus, parce qu'on voit qu'il mute sans arrêt là.
Il y a encore deux autres nouvelles mutations là. Qui viennent d'apparaître, là, qui viennent de rentrer dans le portrait. Fait que ça, on est dans un flou, dans un inconnu. C'est un virus nouveau. Tu sais, l'influenza, on deal avec ça depuis longtemps. C'est un virus semblable, dans la même famille de virus, mais on a moins d'expérience. Les chercheurs ont beaucoup moins d'expérience avec ce virus-là. Donc, on demeure encore dans l'inconnu face à ce qui va se passer là, dans les semaines et puis les mois qui viennent. Fait que je pense qu'on va peut-être continuer encore quelques semaines à se parler comme ça là, de la situation de la crise sanitaire là, puis qui persiste ici en Alberta, au Canada, puis un peu partout dans le monde là. Donc
voilà,
c'est ça. Mais je te remercie, Hélène, d'avoir pris le temps encore cette semaine de discuter avec nous. C'est toujours un plaisir. Moi, je vais laisser nos auditeurs un peu en musique et puis je reviens avec le calendrier culturel. Restez avec nous sur les ondes de votre radio communautaire Nord-Ouest FM, votre radio, vos accents. À tantôt.